Bonsoir à tous et à toutes. Merci d'être si nombreux. Donc, je vais vous présenter rapidement l'association Argos 2001, qui a l'initiative de cette soirée. Donc, l'association est une association de patients et de proches qui a pour objectif que le malade connaisse bien sa maladie pour la gérer au mieux. Donc, ça n'est pas une, c'est pas une association de famille, mais c'est les patients. Donc, le fonctionnement, il y a deux volets. Il y a une série de conférences, oui, si on veut, traitant les différents aspects de la maladie, une par mois. Et l'autre volet, ce sont les groupes de parole, avec un certain nombre de règles qui se sont mises en place rapidement, d'ailleurs, puisque bon, y avait un souci de, de confidentialité, de parole à tout le monde, d'échange et de... voilà. Donc, une fois par mois en alternance, il y a une présentation d'un aspect de la maladie. Une fois par mois, il y a un groupe de parole. Donc, ces groupes de parole sont ouverts aux patients et aux proches. Et les conférences d'information sont ouvertes à tout le monde. Ça se passe à la mairie de, dans une salle de la mairie de Vouneuil-sous-Biard. Et depuis plusieurs années, 2001, Argos 2001, c'est parce que l'association a été fondée en 2001. À Poitiers, elle existe depuis 2004. Et de 2004 à 2010, c'est le docteur Rose Reinhardt qui faisait qui a fait presque toutes les présentations, toutes les informations. Bon, depuis, elle a passé le relais à d'autres praticiens hospitaliers. Et donc, ce soir, c'est Madame Lévy et le docteur Rollin. Voilà.
Merci beaucoup. Donc, la présentation est en fait par l'association Argos 2001. Hein, donc, je voulais vous remercier de toute cette présence ce soir. On espère qu'on va, vous apprendre des choses et puis vous aider tous, hein, peut-être à travers ce trouble bipolaire à l'écran. Hein, donc, alors, en quelques mots, moi je suis le docteur Lévy Chavagnat, donc je suis psychiatre Henri Dabory. Hein, donc, le docteur Hélène Rose, qui est une de mes consoeurs pendant plusieurs années, était donc régulièrement très active, hein, pour l'association Argos, pour les patients bipolaires en général. Et c'est vrai que l'année dernière, elle a commencé un petit peu à passer le relais, donc à moi-même et à d'autres médecins d'Henri Dabory, hein, et également des infirmiers, des assistantes sociales, hein, qui viennent donc pour les groupes, pour les qui sont donc organisés. Donc là, vous avez la petite plaquette éventuellement après, hein, d'informations sur tout ça, hein, que vous pourrez avoir à disposition en demandant après. Alors Monsieur Rollin, qui est à mes côtés, est un interne en psychiatrie, hein, donc il va devenir psychiatre dans quelques années, hein, donc et il s'intéresse beaucoup au cinéma, hein, et donc au cinéma et à la psychiatrie. Donc il a été un petit peu aussi à l'origine de l'idée, enfin, qui a germé dans nos esprits avec également Monsieur Lavignotte, hein, d'Argos. Et c'est ainsi qu'on arrive au topo qu'on va vous faire ce soir sur le trouble bipolaire à l'écran. Donc on va donc faire ce topo, hein, et ensuite, donc, à la fin, il y aura bien sûr des questions, enfin bon, suffisamment de temps, hein, pour que la salle pose un certain nombre de questions, partant du principe qu'en général, après une présentation, d'autant plus films avec des extraits de films. Bon, là, je pense qu'il y aura sûrement beaucoup de questions qui viendront. Hein. Donc, on va essayer de garder le temps, le timing, hein, pour pas, bien sûr, que vous ayez trop peu de temps pour poser des questions. Donc, voilà, donc, on va commencer. Alors, le trouble bipolaire. Alors, le trouble bipolaire, hein, qu'est-ce que c'est ? Alors, déjà, qu'est-ce que c'est qu'un trouble de l'humeur en général ? Alors, un trouble de l'humeur, hein, bon, c'est ce qu'on appelle une variation excessive ou disproportionnée de l'humeur, indépendante de facteurs extérieurs. Et on peut considérer, hein, que c'est un problème de régulation de ce qu'on appelle la température émotionnelle. Hein. Donc, les émotions, on peut prendre chacun la température de ses émotions selon les jours. Hein, mais il est vrai que parfois, il y a des personnes qui ont un degré émotionnel, des variations émotionnelles assez sensibles. Hein, et donc, cette régulation, chez les personnes qui ont un trouble de l'humeur, peut être particulièrement sensible. Voilà, donc on a ce funambule, on a cet homme qui essaye de marcher sur une route qui n'est pas droite. Hein. Et bon, on a l'homme qui sourit et l'homme qui pleure. Hein. Donc c'est un peu les deux, très schématiquement, les deux faces, hein, qu'on peut avoir au niveau des émotions entre la tristesse et l'excès de joie. Alors, quelques généralités qui sont importantes, hein, puisque sans vous abreuver de chiffres, il faut bien en donner quelques-uns. Alors, selon l'Organisation mondiale de la santé, hein, la prévalence, hein, de ce trouble, hein, est à peu près le même que la schizophrénie, du moins en Europe. Hein, et selon le type de trouble bipolaire, et ensuite je vais un petit peu les préciser, on peut considérer que ça se situera entre 1 et 3, on va dire, hein, ce qui est loin d'être négligeable. Hein. Donc dans le monde, hein, donc il n'y a pas des pays où il y en a plus que d'autres, il n'y en a pas plus aux États-Unis qu'en France ou autre. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui existe dans tous les pays. Hein. Alors par contre, ce n'est bien sûr pas soigné de la même manière, hein, mais ça, c'est encore autre chose. Alors, ce qui est très particulier, et ça, il faudrait vraiment que vous puissiez vous le rappeler, parce que parfois, on a beaucoup de difficultés à comprendre pourquoi c'est tellement long, finalement, pour savoir qu'on a un trouble, et pourquoi est-ce que les médecins, ils ont mis autant de temps, pourquoi on n'a pas su me dire avant, etc. En réalité, il y a souvent des diagnostics premiers, hein, le premier diagnostic n'est pas le bon. Hein, voilà. Ce qui n'est pas tout à fait banal en médecine, hein, puisque en médecine, on peut espérer qu'en général, le premier diagnostic s'approche quand même du bon diagnostic. Et ben pour le trouble bipolaire, hein, c'est quand même à forte proportion au début, hein, un diagnostic qui n'est pas fait justement, non pas parce que le médecin est mauvais, mais parce que le trouble en lui-même est un trouble qui varie dans le temps, hein, et qui nécessite déjà d'avoir, je dirais, un recul suffisant sur le passé de la personne, hein, pour pouvoir affirmer, puisqu'il n'y a pas de prise de sang, il n'y a pas de test génétique, hein, qui va prouver, hein, ce trouble. Alors, de ce fait, le délai de diagnostic peut aller, hein, jusqu'à 12 ans. Hein, souvent, on dit plutôt 7-8 ans. Hein, bon, mais parfois, ça peut aller plus loin. Hein, donc, imaginons que vous commenciez à avoir un problème vers l'âge de on va dire 19 ans. Bon, il est possible qu'on ne commence vraiment à vous traiter pour le trouble que vous avez qu'à l'âge de 29 ans, par exemple. Ce qui, bien sûr, pose problème, parce que pendant les 10 années qui ont passé, il s'est passé beaucoup de choses. Et parfois, la vie de la personne a été quand même assez perturbée. Hein. Et encore des tas de diagnostics, on va le voir après, autres, hein, ont pu être mis en avant. Alors, revenez. Alors, il peut y avoir des erreurs, hein, qui sont liées au fait que très souvent, les personnes pensent qu'elles ont une dépression et qu'elles rechutent et qu'elles ont encore une autre dépression et encore une autre dépression et ainsi de suite. Et il y a aussi des comorbidités, hein, c'est-à-dire des gens qui sont très anxieux, qui peuvent avoir des problèmes d'alcool, de drogue ou autre, hein, de manière assez importante. Hein. Donc, vous voyez déjà un mélange, hein, qui commence à se dessiner, hein, entre différents troubles. Et dans tout ça, quel est le premier, finalement, hein, voilà. Donc ça, c'est un petit peu la difficulté. Parce que si on ne traite pas le trouble premier, hein, et qu'on ne traite que les troubles qui viennent après, il y a vraiment des risques qu'on tourne en rond pendant un certain nombre d'années. Alors, On parle souvent d'un spectre. Alors, c'est un drôle de nom, ça veut dire un spectre. Alors, le spectre bipolaire, hein, ça veut quand même dire quelque chose, hein, c'est-à-dire qu'il y a dans les troubles de l'humeur différentes variations, hein, différentes déclinaisons. Alors, l'humeur normale, bon, vous voyez bien que c'est pas une ligne droite, hein, on n'est jamais, on peut être triste, on peut être gai, on peut être en colère, on peut être, voilà, bon, ça c'est la vie normale, on va dire, de tous les jours, hein. La cyclothymie, c'est le fait d'être, on va dire, un peu versatile, c'est-à-dire des gens qui vont être bien et puis après, qui certains jours, ne vont pas vous parler, le lendemain, vont vous parler, enfin, sans que ça soit du tout pathologique. Hein, ça ne les empêche pas d'avoir une vie normale et puis de quand même travailler, etc. Mais bon, on va dire qu'ils ont, on peut dire qu'ils ont parfois une humeur très variable. La dépression unipolaire, c'est des personnes qui vont faire des accès de dépression assez importantes, hein, parfois qui peuvent aller jusqu'à l'accès de ce qu'on appelle de mélancolie, hein, mais pour autant, on ne leur voit pas d'excès d'humeur, hein, du tout, hein, et donc ça, c'est ce qu'on appelle les dépressions unipolaires. Alors, ce qui va le plus finalement nous concerner, nous, ça va être les deux derniers points, c'est-à-dire le trouble bipolaire de type 2 et le trouble bipolaire de type 1. Bon, alors, ça veut dire quoi? Alors, le trouble bipolaire de type 2, ce sont des personnes qui font des accès de dépression, hein, qui font des dépressions, plusieurs dépressions dans leur vie, et qui ont également des moments où elles sont, on va dire, hyperactives, très excitées, très dynamiques, sur un temps donné. Hein. Parfois, ça peut aller même jusqu'à des comportements de dépenses inconsidérées, d'hyperactivité pour au point de ne plus dormir, de mener de front des tas de projets, qui souvent ne sont pas complètement aboutis après, d'ailleurs, hein, puisque après, bon, hop, on peut retomber dans le cycle de la dépression. Quant au trouble bipolaire 1, c'est ce qu'on appelait avant la maladie maniaco-dépressive, hein, c'est-à-dire des accès maniaques. Donc on va voir ensuite dans le diaporama en quoi ça consiste, hein, donc plus précisément, et des phases quand même où on est, on va dire, à peu près bien, et ensuite des états dépressifs, hein, où là, au contraire, ça peut aller jusqu'à vraiment l'état dépressif majeur. Hein. Tout cela sans forcément, souvent, hein, qu'il y ait de raisons précises. Hein. Il peut y avoir des facteurs éventuellement qui peuvent faire varier l'humeur, mais il n'y a pas de raison précise, comme on peut voir dans une dépression réactionnelle en lien avec des événements qui pourraient extérieurs. Hein, voilà. Donc, et ça, c'est un petit peu ce qui est compliqué, c'est qu'entre les épisodes, les personnes n'ont pas de dysfonctionnement particulier, hein, bon, enfin, surtout au début de la maladie, hein, mais bon, c'est vrai que si la maladie n'est pas traitée et qu'au fur et à mesure, les gens ont de plus en plus d'alternance d'états dépressifs ou subdépressifs et d'états d'excitation, ils ne vont pratiquement plus jamais avoir d'état où ils sont bien, hein. Et donc là, on appelle ça des cycles rapides, hein, et c'est ce qui peut poser problème au fur et à mesure des années, quand le trouble n'a pas été traité suffisamment tôt. Alors, bon, là, c'est un petit peu trop compliqué, donc on va quand même le revoir dans les grandes lignes. Alors, le trouble 1, c'est celui qui était complètement en bas, hein. Donc là, ce sont des cas typiques, hein, de la maladie bipolaire, mais ça ne veut pas dire que c'est les cas les plus fréquents, hein. Et c'était la maladie qui a été décrite la première fois, hein, par les psychiatres du siècle dernier. Le trouble bipolaire de type 2 est de loin le plus fréquent, hein, c'est-à-dire que finalement, les gens peuvent apparaître comme des dépressifs chroniques. Voilà, hein, je vous résume en deux minutes. Hein. Voilà, les gens sont dépressifs, hein, ils sont souvent dépressifs. Bon, et de temps en temps, ils ont quelques phases où ils sont un peu hyperactifs, voire ce qu'on appelle hypomaniaques. Hein. Et c'est vrai que ces gens-là, si on vraiment on les diagnostique pas et si on passe notre temps à leur donner que des antidépresseurs ou des sans régulateur d'humeur, on va se retrouver confronté à des personnes qui vont être de plus en plus ce mal, hein, et finir par être vraiment complètement dépressifs avec une action pas très efficace des antidépresseurs. Bon, le trouble cyclothymique, hein, bon, bah, ça c'est moins grave, hein, mais c'est quand même quelque chose qui correspond à des fluctuations d'humeur. Hein. Donc tout ça, ça doit se passer au moins sur moins de 2 ans. Hein. Et des moments où les gens sont actifs, dépressifs, mais sans que ça soit vraiment des grands accès. Hein, comme, voilà. Alors l'état mixte, c'est encore plus compliqué, si je puis dire. C'est le fait d'avoir les symptômes en même temps, hein, dans une même maladie, hein, dans une même phase, de dépressif et maniaque. Hein. C'est-à-dire être, par exemple, triste, mais en même temps être hyperactif. Mais avoir des propos très négatifs, parfois très suicidaires, et puis juste après se mettre à rigoler, à faire des blagues, des tas de etc. Donc c'est un tableau qui peut être un peu trompeur, hein, et qui est à surveiller, parce que c'est là où il peut y avoir le risque de suicide. Alors comment on rentre dans cette maladie ? Alors bon, on rentre pas dans la maladie, hein, comme on rentre dans une maison, dans un tunnel ou en religion, hein, mais enfin on dit en médecine qu'on rentre dans une maladie, hein, c'est une formule qu'on utilise. Alors c'est très majoritairement par un premier épisode de dépression. Hein. Donc bien évidemment, quand vous faites un épisode de dépression, logiquement, bon, vous allez voir votre médecin, bon, ça fait plusieurs semaines, voire parfois plusieurs mois que vous êtes mal, vous n'arrivez plus à travailler, vous avez envie de rien, vous êtes triste, sans énergie, parfois vous restez couché longtemps. Bon, ben, logiquement, c'est un état dépressif. Hein. Donc là, tout au début, on va probablement vous mettre un antidépresseur, hein, avec une psychothérapie, voire parfois, quand c'est nécessaire, une hospitalisation. Donc il y a beaucoup de gens qui vont commencer comme ça. Alors, qu'est-ce qui peut faire un petit peu quand même doute, hein, quand on a un état dépressif et en tant que médecin, bon, il faut voir un petit peu s'il n'y a pas déjà eu des phases hypomaniaques. Qu'est-ce que c'est la phase hypomaniaque, hein, ce sont les personnes qui sont hyperactives de manière permanente. On peut être très bien, je dirais, le fait d'être hypomaniaque en permanence, à la limite, c'est merveilleux. C'est-à-dire que vous êtes toujours un peu au-dessus de votre régime, vous faites plein de choses, tout vous réussit, vous êtes beaucoup plus efficace, hein, que votre voisin, vous faites tout plus vite, etc. Mais bon, c'est un régime qu'on ne peut pas tenir tout le temps, hein, parce qu'il y a quand même un épuisement au bout d'un moment physique et psychique. Hein. En même temps, c'est pas toujours. Les gens vont pas vous le dire parce qu'ils sont bien. Donc, quand on est bien, on va pas dire au médecin j'ai ci, j'ai ça. Bon, c'est plutôt les questions que le médecin va vous poser, hein, qui vont l'orienter. Il y a des personnes qui vont vous dire oui, c'est merveilleux. Une fois par mois, pendant une semaine, je fais le ménage à fond chez moi, de haut en bas, nuit et jour, etc. Bon, alors ça peut paraître. C'est pas forcément un truc qu'elle va vous dire d'elle-même, puisque bon, elle est plutôt contente. Hein, c'est bien, c'est super. Voilà. Bon. Ou des achats, hein, quelqu'un qui va vous dire j'ai fait des tas d'achats, mais finalement rentré chez moi j'ai tout mis dans les placards et j'ai rien mis. Alors, les achats sont dans le placard, ils ont été des achats compulsifs, quoi. Et puis après, bon, bah, la personne, une fois qu'elle redevient dans un état, on va dire un petit peu plus habituel, bon, elle va dire qu'elle aime pas du tout les robes roses, qu'elle peut pas supporter les chaussettes vertes, etc. Donc tout ça, ça va rester dans le placard. Et parfois il y a des échanges qui peuvent se faire après de vêtements ou des reventes de vêtements, mais bon. Donc ça, si vous voulez, ça paraît pas maladif en soi, mais mis dans un total, hein, et dans une, on va dire dans la vie d'une personne, si ça se produit assez régulièrement et qu'en plus elle fait des états dépressifs, on peut se poser la question. Alors le fait aussi de mal réagir aux antidépresseurs, qu'est-ce que ça veut dire mal réagir ? Ça veut dire que l'antidépresseur va vous énerver. Il va vous énerver, il va provoquer une irritabilité, un bouillonnement interne, des tremblements, une excitation, bon, des réactions qui ne doivent pas se voir normalement. Là, ça peut être un indice aussi indirect, hein, que la personne peut avoir éventuellement ce genre de trouble. Alors, ce qui est très important, et souvent quand on vous pose des questions sur votre famille, c'est pas du tout pour vous embêter, hein, c'est que les antécédents familiaux sont importants, hein, pour en psychiatrie, hein, c'est-à-dire qu'il faut poser des questions, hein, sur les parents, les grands-parents, les frères et sœurs, les oncles et tantes, enfin voilà. Enfin, et il n'est pas rare, hein, qu'on ait à ce moment-là connaissance d'autres personnes de la famille qui ont fait de la dépression ou une tentative de suicide, un arrière-grand-père qui est mort. Bon, finalement, vous apprenez bien plus tard qu'il a eu un suicide, enfin bon, des choses comme ça. Et autre chose aussi, des épisodes de changement d'humeur, hein, qui peuvent se voir après un accouchement. Hein. Alors, quand j'ai de changement d'humeur, c'est pas le baby blues, hein, qui est considéré comme un élément à peu près normal, hein, quelques jours après l'accouchement, le fait d'avoir un peu le cafard, de se sentir pas capable d'élever son enfant. Bon, je dirais que c'est une descente d'hormones, c'est quelque chose d'assez habituel. Par contre, quand ça devient une véritable dépression, voire qu'il peut y avoir un état aussi un petit peu délirant où la mère ne reconnaît pas son enfant, bon, elle ne veut pas s'en occuper, et parfois l'enfant bon, ben, doit être hospitalisé avec la mère dans une unité mère-enfant, ou voire bon, la maman doit être ne peut pas s'occuper du tout de l'enfant. Alors là, c'est quand même aussi un signe. Là, on ne sait pas exactement pourquoi, hein, ça peut être important à connaître, mais on a remarqué, hein, en étudiant des milliers, des millions de personnes qui ont des troubles bipolaires dans le monde, hein, que les personnes qui avaient eu ce genre d'épisode dépressif après un accouchement, à terme, peuvent développer des troubles bipolaires. Bon, alors, après, il y a autre chose, hein, qui peuvent se voir. Hein, bon, on peut dire que la personne a souvent des moments d'alcoolisation, des choses de ce type-là. Bon, donc ça, le diagnostic n'est pas toujours facile. Après. Alors, l'état dépressif. Non, allez-y, Max. Voilà. Alors, l'état dépressif, hein, bon, donc, bon, c'est une dégradation de l'humeur importante qui est marquée par la tristesse. Hein, la tristesse et la souffrance. Hein, c'est la souffrance morale est une souffrance qui peut être intolérable, hein, qui est décrite pour les gens qui ont eu les deux types de souffrance, la souffrance physique aiguë et la souffrance morale aiguë, ou même encore pire, longtemps. Elles vont clairement vous dire que c'est encore bien plus douloureux de souffrir, hein, dans son âme que de souffrir dans son corps. Hein, et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut toujours avoir à l'esprit. Hein. C'est pratiquement pas superposable quand vous-même, vous ne l'avez pas vraiment vécu de l'intérieur, hein, ou été avec quelqu'un qui avait cette souffrance-là. Hein. Elle est difficile à communiquer, elle est vraiment très personnelle. Alors, perte de la notion de plaisir, absence de projet, donc fatigue, manque d'énergie, perte de confiance, hein, ralentissement de la pensée. Bon, on pourrait rajouter douleur, trouble du sommeil, enfin, il y a encore d'autres symptômes qu'on pourrait mettre. Hein, et souvent, hein, des idées de suicide, non pas tant parce qu'on est attiré par la mort, mais parce qu'on désire ne plus souffrir. Hein. Donc, les idées de suicide sont souvent des idées qui viennent aux personnes et qui peuvent petit à petit arriver jusqu'à ce qu'on appelle la crise suicidaire, hein, c'est-à-dire c'est la solution. Alors, au début, ça peut être une solution, mais on y pense un peu, mais on n'y pense plus. Après, on y pense de plus en plus, et surtout si on va toujours mal. Et puis, à un moment, ça vous apparaît quasiment la solution unique, hein, à vos problèmes. Alors après, on passe complètement, on va dire, dans l'autre champ, hein, du trouble de l'humeur, hein, qui est l'état maniaque. Hein, donc, bon, l'état maniaque, tout est possible, puisque l'humeur est exaltée, hein, exaltée de manière extrême. Hein, ce n'est pas une petite exaltation de l'humeur. Alors, le contenu de la pensée est quand même modifié. Hein, estime de soi, voire mégalomanie, voire mythomanie parfois, idée de grandeur. Hein, fuite des idées, hein, les idées dans la tête, ça va tous azimuts, hein, une idée, deux idées, trois idées, bon, la personne elle-même n'arrive plus à suivre, elle n'a aucun contrôle, hein, sur le contenu et ni sur la vitesse de ses pensées. Sur le plan psychomoteur, bon, la personne bouge et elle se lève et elle va à droite et elle va à gauche, elle ne tient pas assise. Tout ce qui est de l'ordre de la morale, hein, des règles, on va dire, de bienséance habituelle, d'éducation de tout un chacun. Alors là, ça peut sauter complètement. Hein, une désinhibition sexuelle qui peut poser problème, en particulier par des comportements sexuels qui sont ensuite regrettés, hein, une fois que la personne se rend compte, puisque bien évidemment, après, une fois que la personne retrouve un état de normothymie, bon, elle va tout à fait se rappeler tout ce qu'elle a fait, elle ne devient pas amnésique, hein, voire les autres vont lui rappeler. Donc c'est tout à fait difficile. Après, il y a des risques aussi, bien évidemment, sur le plan de la sexualité. La grande familiarité, hein, bon, un patient qui va rentrer dans mon bureau et qui va d'emblée me tutoyer, il est clair que je peux assez facilement imaginer qu'il est en train de développer, s'il est bipolaire, une désinhibition, hein, ou le fait de poser des questions qui ne posent pas, le fait de parler beaucoup, hein. Et les achats inconsidérés, ça j'en ai parlé tout à l'heure, qui peuvent aller quand même jusqu'à des difficultés importantes, hein, nécessitant parfois l'intervention d'une mise sous tutelle, voire sous curatelle, hein, avec des achats, mais vraiment parfois sur une même journée, les personnes peuvent dépenser tout ce qu'elles n'ont pas du tout, hein, c'est-à-dire d'où la difficulté après la mise en danger de tout le patrimoine de la famille. Aucune possibilité de le raisonner, hein, c'est-à-dire que de toute façon, la personne étant quelque part déjà dans un état très, très haut, hein, sur une forme de nuage, entre guillemets, tous les arguments très concrets, très réalistes, très, très rationnels que vous allez donner ne vont absolument pas le toucher, hein, quand on arrive vraiment à l'état maniaque. On peut arriver jusqu'à ce qu'on appelle parfois des états de fureur maniaque. Les gens sont tellement agités, tellement excités, que de toute façon, il faut parfois être amené à les maintenir, hein, mécaniquement, hein, c'est-à-dire et ça, bon, ces personnes-là, bien évidemment, peuvent se mettre en danger, peuvent se blesser, peuvent être amenées à avoir des comportements assez, assez inquiétants et dangereux pour eux-mêmes et pour les autres. Et donc l'hospitalisation rapide, souvent sous une forme non désirée par la personne, s'impose, et les familles, bien évidemment, sont mises à partie, hein. Et ça, on en parlera un petit peu après. Hein. Donc, on va laisser la... Voilà, la conscience du trouble n'est pas là, hein, par la personne. Elle ne comprend pas pourquoi on veut qu'elle se soigne. Alors, les comorbidités, elles sont importantes, hein, dans la mesure où elles sont trompeuses. Hein. Alors, il y a quand même beaucoup aussi de maladies qui sont associées. Alors, vous allez me dire pourquoi. Alors, on ne sait pas exactement. Hein. Sur le plan cardiovasculaire, hein, hypertension, AVC, angine de poitrine. Hein. Au niveau endocrinien, le diabète, l'obésité, hein, les troubles thyroïdiens également. Hein. Bon, donc ça, on va dire que c'est des pathologies associées. Hein, c'est pas ce qu'on appelle comorbidité, c'est des troubles somatiques ou autres associés. Tout ce qui concerne l'alcool ou les toxiques, bon, le tabac, bon, on pourrait considérer que le tabac n'est pas vraiment une addiction, enfin, c'en est quand même une, hein, c'est l'addiction la plus fréquente. Hein. Bon, les troubles anxieux, les phobies, les troubles du comportement alimentaire, hein, qui peuvent aboutir à des obésités, entre autres. Donc, vous voyez que finalement, bon, on peut avoir quand même beaucoup de problèmes de santé qui ne sont pas négligeables, hein, mais qui sont un peu plus fréquents pour les personnes bipolaires dans les deux premières lignes. Hein. Et les addictions également. Donc, on peut passer longtemps, entre guillemets, pour être, par exemple, une personne alcoolique, alors qu'à l'origine, hein, on avait un trouble bipolaire, hein, qu'on s'est auto-soigné, si je puis dire, par l'alcool, mais qui finalement, une fois que dans les services d'alcoolologie, on détecte beaucoup mieux maintenant les troubles bipolaires, on arrive à totalement guérir les gens, hein, de leurs problèmes d'alcool. Alors, la phase aiguë. Alors, la phase aiguë, souvent dans ces états-là, que ce soit l'état maniaque ou l'état dépressif grave, il faut être amené à faire hospitaliser la personne qui, en général, bien sûr, n'est pas d'accord pour être hospitalisée. Alors, c'est là qu'en jaune, on ne voit pas grand-chose. C'est là que la santé, on va dire le code de la santé mentale, hein, a fait un certain nombre de lois, hein, dont la dernière a été révisée le 5 juillet dernier, qui s'appelle la loi sur le droit et la protection des personnes souffrant, nécessitant des soins psychiatriques. Avant, on appelait, c'était la loi de 90. Hein, donc là, vous avez Catherine Zeta-Jones, hein, qui est une actrice qui a révélé son trouble bipolaire de manière ouverte. Hein, donc, là, je me suis permis de mettre sa photo, puisque elle-même accepte et parle de son trouble bipolaire en public. Hein, donc, c'est pour ça que j'ai mis sa photo. Hein. Donc là, je vais vous expliquer un petit peu. Bon, alors, je vais être très schématique pour ne pas vous abreuver de choses un peu pénibles. Hein, mais bon, les soins libres sont la grande majorité des soins qu'on peut avoir quand on a un problème psychiatrique. Donc, en grande majorité. Hein, donc, il y a peu de gens qui sont hospitalisés malgré eux. Hein. Ça fait 30%. Bon. Et l'activité d'un hôpital psychiatrique est à 80% à peu près couvert par l'activité de consultation psychiatrique. dans les CMP, par exemple, hein, ou les hôpitaux de jour, le reste étant consacré à l'intra-hospitalier, c'est-à-dire aux services de soins. Donc, c'est souvent des chiffres qu'on ne connaît pas, donc j'ai pensé que c'était bien quand même de les rappeler. Alors, il y a deux procédures, hein, pour être hospitalisé, à la demande du tiers ou sur la décision du préfet ou du maire. Et dans tous les cas, les mesures d'urgence existent. Hein, voilà. La suivante. Ce micro, micro est capricieux. Il est mieux celui-là ? Oui. Alors, la mesure de contrainte sans tiers. Alors, ce qui est nouveau dans cette loi, hein, c'est que maintenant, une personne peut être hospitalisée sans son consentement, sans que l'on demande à un tiers, hein, c'est-à-dire souvent le tiers, c'est quelqu'un de la famille, de signer un document. Donc, ça, c'est vraiment dans des cas de péril imminent, hein, d'urgence extrême, où il suffit donc qu'il y ait un certificat, bien sûr, du médecin. Hein, c'est absolument un élément indispensable, mais sans pour autant que le tiers qu'on n'a pas trouvé ou qui n'est pas présent soit interpellé. Hein. Donc ça, c'est une mesure nouvelle que les médecins commencent à découvrir, hein, en particulier les médecins généralistes, hein, qui sont souvent au chevet des patients, ou les médecins du SAMU, par exemple. Alors, d'autre part, si la personne qui avait signé, demandé l'hospitalisation, hein, veut faire ressortir très rapidement la personne de sa famille alors que la personne va très très mal, on peut également s'opposer à ça en gardant la personne à l'hôpital avec cette mesure-là, dans l'intérêt de la personne, bien évidemment. Si on craint que la personne se suicide dès sa sortie, on va bien sûr empêcher qu'elle ne sorte de l'hôpital. La suivante. Alors, il y a quelque chose d'assez important, c'est ce qu'on appelle maintenant les soins en ambulatoire, hein, c'est-à-dire que la personne peut à tout moment voir l'hospitalisation transformée en soins à l'extérieur, hein, c'est-à-dire des soins chez elle ou avec un suivi, hein, qui est défini avec le psychiatre hospitalier. Hospitalisation partielle, consultation, hôpitaux de jour, enfin tout est possible. Hein. Mais le patient a ce qu'on appelle un programme de soins qui va signer, qui va accepter. Hein, et si jamais, bien sûr, il y a... il ne vient pas aux consultations, entre autres choses, il ne vient pas. On va pouvoir le réhospitaliser très simplement. La suivante. Alors, autre mesure importante, c'est que maintenant, nous avons un juge des libertés et de la détention, appelé JLD, qui vient à l'hôpital plusieurs fois par semaine pour recevoir les personnes, en particulier au 15e jour de l'hospitalisation, hein, pour les gens qui sont hospitalisés donc contre leur gré, de manière à vérifier que tout se passe bien, que la personne puisse éventuellement se plaindre de quelque chose, non pas aux infirmiers, aux médecins qui peut-être ne l'écouteront pas, enfin c'est des fois ce qu'ils disent au bout de 15 jours, mais à quelqu'un qui est extérieur, hein, qui est détenteur du droit des libertés de la détention. Hein. Et donc, cette personne, les juges vont recevoir. Donc, la personne a droit à avoir un avocat. Hein. Donc, le droit à l'avocat est également ouvert. Hein. Si les moyens ne sont pas là, l'avocat sera nommé d'office, hein, par la justice. Hein. Ce n'est pas du tout nous qui nous occupons de ça. Et le juge peut décider, si ça lui semble nécessaire, de lever l'hospitalisation. Hein. Ou au contraire, de la valider. Hein. Mais ça, c'est vraiment tout à fait nouveau. Hein. Et ça a demandé un grand changement d'organisation aux hôpitaux, puisque on n'avait pas du tout l'habitude de travailler avec la justice et vice-versa. Cette loi était quand même assez critiquée, hein, quand elle a été modifiée, dans la mesure où ça paraissait quand même, à la limite, un peu choquant que les juges viennent s'occuper de maladies, on va dire. Hein. Comme toutes les lois, une fois qu'elles sont parues, il faut les appliquer. Hein. Donc, au niveau de l'hôpital, on a bien été obligé d'appliquer la loi. Et il nous a semblé préférable de faire venir les juges à l'hôpital plutôt que d'amener les malades au palais de justice, dans des fourgons, dans des ambulances, trois fois par semaine, avec des infirmiers qui auraient passé leur temps à faire que ça. Donc là vraiment, on a vraiment refusé cela. Ah, ici, sur Poitiers, hein, il y a d'autres villes, hein, dans d'autres régions qui ont fait ça. Hein, voilà. Donc ça, mais en même temps, le juge, hein, n'est pas quelqu'un qui est là pour sanctionner. Alors, ça fait très peur aux patients. Hein. Si on les juge, bon, ça leur rappelle des choses, peut-être pour certains qui ont été un peu délinquants et disent « Oh là là, il va me remettre en prison », etc. Non, c'est le juge des libertés de la détention. Jusqu'à présent, les juges suivent complètement ce que les médecins disent. Hein. Il y a pas de... Ils nous disent eux-mêmes, ils étaient contre aussi cette loi. Hein. Ils disent « Nous, on n'est pas médecins, on n'y connaît rien. » Les avocats, bon ben... Les avocats, bon, bah, ils viennent là parce qu'ils ont des clients, donc ils viennent à l'hôpital, enfin voilà. Donc c'est un petit peu compliqué, ça a commencé depuis le début août, hein, donc on va parler de tout ça au bout de quelques temps, faire le point, en parler aussi avec les associations d'usagers. Hein. Mais bon, pour l'instant, c'est nouveau, il faut savoir que d'autres pays d'Europe où ça existait depuis longtemps. Alors, les traitements. Hein, alors, bon, les traitements. La phase aiguë, peut-être. Vous mettez pas le film. Ou là, à la fin, vous le mettez à la fin, peut-être. À la fin, non, à la fin. Oui. Alors, dans les traitements, recommencer. Qu'est-ce qu'on a comme traitement? Bon, là, bien sûr, je vais pas vous faire un listing ni une déclinaison tous les médicaments qui existent pour soigner les troubles de l'humeur. Hein. Alors, on a essentiellement, surtout, les régulateurs d'humeur. Hein. Bon, s'il y a des questions après, on pourra y répondre. Hein. Les régulateurs d'humeur, à quoi ça sert? Voilà. On part de l'idée que la maladie bipolaire est une maladie du cerveau. Hein. C'est-à-dire que une part génétique, une part biologique, une part métabolique, enfin bon, différents éléments. Mais en tout cas, il faut soigner le cerveau. Au niveau des neuromédiateurs, pour ça, on a des médicaments régulateurs d'humeur. On en a 6 ou 7, on va dire, différents. Parfois, il faut en avoir un, parfois, il faut en avoir deux, ça dépend. On peut vous mettre aussi des antidépresseurs quand c'est nécessaire, sur un temps très court quand même. Hein. Certains ne sont pas indiqués, hein, ils sont même contre-indiqués, puisqu'ils risquent de vous faire avoir des accès maniaques. On peut utiliser aussi des médicaments pour l'angoisse, des médicaments pour le sommeil, enfin, je n'ai pas tout détaillé, ce n'est pas le cas. On peut utiliser aussi ce qu'on appelle l'électroconvulsivothérapie. Hein. On avait fait il y a quelques années une conférence d'ailleurs sur ce thème, qu'on appelait il y a très longtemps les électrochocs. Hein, qu'aujourd'hui on appelle la stimulation électrique, hein, qui se fait donc au CHU, hein, avec l'hôpital, c'est moi qui m'occupe de ce service. C'est un régulateur d'humeur qui peut sortir des gens très dépressifs, très mélancoliques, hein, de leur état de souffrance. La résonance magnétique transcrânienne, RTMS, alors ça c'est assez nouveau, hein, c'est une thérapeutique qui stimule le cerveau de manière externe, sans anesthésie, sans douleur. Hein. Donc ça se fait au niveau de l'hôpital par le biais d'un laboratoire de recherche. Hein. C'est assez prometteur, hein, pour l'avenir, hein, pour les dépressifs, mais aussi pour les bipolaires, également pour les gens qui ont des TOC. Hein. Bon, donc là, on peut le faire au niveau de Poitiers. La psychothérapie est bien sûr essentielle, hein, qu'elle soit de soutien, en thérapie comportementale ou autre. Et tout ce qui fait partie de la psychoéducation sur la maladie bipolaire qu'on peut faire au niveau de l'hôpital dans les CMP, mais aussi l'aspect psychoéducatif, hein, des associations de patients, comme bien sûr l'association Argos 2001. Et je vais peut-être relaisser un petit peu la parole à cette association.
Donc je vais revenir un petit peu sur... voilà, on va aller plus vite. C'est là. On va aller un peu vite. Bon, pas mal de choses ont déjà été indiquées par Annie, qui a fait la présentation. Donc, voilà, les contacts. Je prends à l'envers. Voilà, vous pouvez noter ça. Ceux qui souhaitent avoir les coordonnées sur un petit bout de papier, vous viendrez nous voir tout à l'heure. Un petit dépliant. Les principes d'Argos.
Il y a un site internet où il y a tout.
Voilà, il est... Puisque, voilà, le site internet, il est... Web. Voilà, vous verrez ça peut-être tout à l'heure. Donc, l'association est constituée de personnes qui se sont mobilisées pour être les propres acteurs de leur santé sur les questions liées aux troubles bipolaires. Donc, on parle de empowerment. Vous verrez ça dans la littérature. Le patient est le plus à même de s'occuper de lui et de sa pathologie. C'est ce que nous pensons. Les patients ne sont pas uniquement des usagers, mais c'est des experts. Ils sont experts de leur propre maladie. C'est moi qui connais le mieux ma pathologie, comment je la vis, comment elle se manifeste chez moi. Ensuite, il me faudra en parler au médecin et lui en dire le maximum, évidemment. dans le principe d'autonomie, Argos oppose faire pour au faire avec. On ne fait pas à la place du patient, on fait avec lui. Ça, c'est des principes qui nous guident dans notre action. L'éthique, il s'est installé un comité d'éthique à l'hôpital, c'est dans la loi. Il existe, il fonctionne. Nous, à notre niveau, on n'a pas la même prétention. Respect des personnes et de leurs choix, de leurs croyances et de leurs appartenances culturelles. Donc, ça nous permet d'éviter les sectes, de ne pas stigmatiser les gens par rapport à leurs origines. Ensuite, la liberté d'expression et de confrontation, à Argos, on discute. La confidentialité et anonymat des personnes, je reviendrai sur les groupes de parole et comment ils se passent assez rapidement. Indépendance de tout courant politique, religieux, moral et scientifique. Pas de secte ou autre, ou parti politique. Annie a parlé tout à l'heure des réunions d'information en début de mois. Elle s'appuie sur les... Vous me chronométrez, vous me dites... plus vite. C'est un terme utilisé depuis 1980, initialement proposé aux malades souffrant de schizophrénie et élargi aux troubles de l'humeur. Alors, c'est des éléments que j'ai pris sur des sites de référence, processus d'apprentissage et de formation théorique, ayant pour but la compréhension du trouble et ses traitements, afin de permettre au patient de gérer sa maladie de la façon la plus adéquate possible et autonome possible. C'est le docteur Christian Gay qui a un peu théorisé tout ça à partir d'expériences des années 80 au Canada et États-Unis. Voilà, donc on revoit ce qu'on a dit sur autonomie des personnes, le patient est le meilleur expert de sa maladie. Les objectifs élémentaires, donc les objectifs de la des mesures psychoéducatives, que le faire autant que se peut que le patient ait conscience de sa pathologie. Parfois, vous le savez, le patient va la dénier, et les familles aussi. Dire, on sent bien qu'il se passe quelque chose, mais on va pas le formuler. Un deuxième objectif, c'est voir arriver les crises en haut, en bas. Donc, faciliter la détection précoce des symptômes précurseurs. Et on le verra tout à l'heure, on l'a vu et on le verra un petit peu tout à l'heure. Il y a bien souvent un traitement médicamenteux. Donc nous essayons de parler avec le patient de l'intérêt de prendre son médicament, ses médicaments régulièrement, etc., etc., en l'impliquant d'abord et en impliquant les familles aussi. Objectif secondaire, apprendre à contrôler le stress. Le contrôler ou ne pas se mettre en situation pour pouvoir ne pas avoir des éléments déclenchants, pour éviter les éléments déclenchants, éviter aussi l'usage et l'abus toxique. On ne va pas dire qu'il ne faut jamais boire un petit apéro, mais il ne faut pas en boire 10 ou 5. Obtenir une régularité et un style de vie. Se respecter les horaires de sommeil et prévenir les conduites suicidaires, les voir venir, les prévenir. Vous verrez tout à l'heure que on a une petite. Les personnes concernées, je vais peut-être avancer un peu plus vite. Les patients bipolaires et l'entourage. Parce que dans la psychoéducation, nous pensons que tout le monde souffrent de cette maladie au sein d'une famille, au sein d'un couple, au sein d'une fratrie. Il n'y a pas un patient et le proche, il y a l'un patient, la maladie et le proche. On ne souffre pas du patient, on souffre de la pathologie. Ça, c'est le programme que nous déroulons toute l'année, de septembre à juin. Donc, c'est les phases de la maladie qui ont été décrites par le docteur tout à l'heure, avec un module qui est le module 9, c'est comment on vit avec, comment le patient vit avec, comment la famille ou les proches vivent avec ce trio, comment on vit dans ce trio. Tout ceci est développé par des médecins ou des cadres ou des assistants sociaux, assistantes sociales, éducateurs spécialisés, on peut plus, monsieur Gentil. Et nous avons rajouté, ici à Poitiers, insertion professionnelle, comment trouver un travail adapté à la vie, à une vie saine avec un stress minimal pour les personnes. Ce n'est pas facile. Et prévention du suicide, dont on en a parlé tout à l'heure, c'est un cadre référent du service référent, le PRS, le plan de prévention régional du suicide, qui intervient, qui est venu pour la première fois cette année. Voilà. Les groupes de parole, très vite, ils réunissent ce que nous a dit Annie tout à l'heure, les patients et les proches. Ce sont des groupes ouverts. Ils ne se substituent pas au volet médical. Nous disons et nous redisons les bénévoles de l'association, les 4 personnes qui sont là, plus d'autres qui sont aussi un peu plus derrière. Nous ne sommes pas soignants. Nous ne nous substituons pas aux médecins. Nous utilisons l'expertise des profanes, les gens qui ont vécu des épisodes, qui viennent en parler, qui viennent échanger avec des personnes qui découvrent ça ou qui trouvent un intérêt à entendre les expériences des autres. Nous installons un cadre sécurisant et nous essayons de pratiquer, à partir de des théories de Carl Rogers, accueil, écoute, soutien. Les règles des groupes de parole, très vite. Confidentialité, rien qui se dit ici ne sort de la pièce. C'est les règles qui sont dites au début du groupe de parole. Pourquoi ? Pour que les gens se sentent à l'aise, se sentent en toute liberté de s'exprimer. On leur garantit qu'on n'ira pas le raconter, que personne n'ira le raconter. Bon. Le non-jugement, on ne jugera pas, tu peux nous dire des choses qui peuvent te paraître, qui pourraient peut-être te paraître bon, critiquables moralement. Tu as besoin de le dire, tu le dis. On fera en sorte d'entendre ça. Je passe sur le parler à la première personne et le ici et maintenant. Et respect de la parole, c'est surtout ce que nous mettons en avant. J'ai le droit de parler, je demande la parole. On ne fait pas des discussions croisées autour de la table. Et je n'interromps pas, je parle à mon tour. Et ce que je n'ai pas rajouté, ça fait 3 ans que je dis que je vais le rajouter, j'ai le droit de ne pas parler. Il y est ? Eh bien, c'est fait. Vous voyez, tout vient. Voilà. Je vous laisse lire, c'est le rôle de l'animateur. Nous sommes les 4 ici. Voilà, j'ai fini. Pardon.
T'as oublié que on apprend aussi une chose, c'est à ne pas culpabiliser de notre maladie. Ça s'est marqué nulle part.
Eh bien, noté, greffier, je le rajoute pour la prochaine. Voilà.
Merci beaucoup, Jacques, de votre intervention très précise. Et je voudrais donc rajouter après ce que disait Jacques, qu'en effet, aujourd'hui, on le sait, il y a beaucoup d'études qui le montrent, qu'entre un groupe de personnes qui a juste un traitement régulateur d'humeur et un autre groupe de personnes qui a un traitement régulateur d'humeur et qui participe à des groupes, il y a une très nette différence au niveau de la santé, au niveau du risque de rechute. Il y a beaucoup moins de récidives et de rechutes dans le groupe de personnes qui a le traitement et qui participe ou qui a participé à ces groupes-là. Donc ça, c'est vraiment actuellement vraiment prouvé par un nombre d'études. Donc n'hésitez pas, ou des questions ou des témoignages, enfin vous pouvez bien sûr vous exprimer. On est là pour essayer de dire, de parler.
Bonjour docteur.
Oui madame, oui.
Vous avez parlé de votre programme indiqué unipolaire et le programme bipolacte que Jacques Lavignotte a montré. Ne parle que de la dépression bipolaire. Alors, vous l'introduisez dans les maladies bipolaires.
Pas exactement. C'est-à-dire que les maladies dépressives, la dépression, peut exister complètement en dehors du trouble bipolaire. Hein.
Oui.
Bon.
Qu'est-ce qui la différencie de la dépression unipolaire ? C'est la dépression toute simple.
C'est tout simplement le fait que la dépression soit inscrite dans la vie du patient comme un élément, si vous voulez. Des gens qui font que des dépressions, hein, donc on va dire que c'est peut-être des dépressifs qui se soignent et qui après qui rechutent. Hein. Mais la dépression unipolaire, c'est quand même des dépressions beaucoup plus sévères, si vous voulez. Hein. Hein, c'est la sévérité de la dépression qui fait que, de ce fait, le traitement n'est pas non plus le même. Il faut souvent rajouter aussi parfois des régulateurs d'humeur, comme le lithium, par exemple. Voilà. Ça, c'est ce qui différencie, c'est la teneur, la gravité, on va dire, de la dépression. Hein.
Merci.
Bonjour. Vous parlez des régulateurs d'humeur. Est-ce que c'est des traitements qui sont pris au quotidien et à vie? Est-ce qu'il y a des effets secondaires? Enfin, voilà.
Alors, les traitements donc, qui s'appellent régulateurs d'humeur ou normothymiques, hein, donc c'est la même chose. Ce sont des traitements donc, de différentes familles. Hein, donc, on ne peut pas tous vous les décrire, hein, parce qu'il y a, dans les grandes lignes, il y a certains médicaments qui font partie des antiépileptiques, hein, qui ont été ensuite retravaillés parce qu'ils ont des pouvoirs de régulateurs d'humeur. Hein, et ensuite, il y a des médicaments antipsychotiques, hein, qui sont utilisés pour la schizophrénie, mais qui sont également utilisés pour le trouble bipolaire. Uniquement, il y en a très peu, hein, c'est des nouveaux médicaments, hein, mais il y en a également quelques-uns. Alors, le traitement, là, ça, c'est une question très importante. Hein. Est-ce que je dois continuer mon traitement? On a bien vu tout à l'heure qu'une des causes, hein, parfois, de rechute, c'était l'arrêt du traitement, l'arrêt du soin. Hein, donc, il est vrai que, théoriquement, c'est un traitement à prendre au long cours. Un traitement à prendre au long cours, dans la mesure où le trouble bipolaire étant une perturbation, hein, d'un certain nombre de neuromédiateurs au niveau du cerveau, par définition, le cerveau ne va pas miraculeusement redevenir totalement un cerveau d'une personne qui n'a pas ce trouble-là, comme le pancréas d'un diabétique ne va pas subitement devenir un pancréas sain, hein, donc c'est vraiment des maladies qu'on peut comparer, hein, le diabète et le trouble bipolaire, hein, dans la mesure où il y a un organe qui fonctionne moins bien, qui impose, hein, donc un traitement au long cours. Hein, donc la réponse est oui, c'est un traitement à prendre au long cours, avec toutes les difficultés en général à pouvoir accepter. Tout à l'heure, Jacques a parlé du déni, hein, de la maladie. Hein, on est en difficulté tous autant qu'on est quand un médecin vous dit, voilà, vous avez un trouble de santé qui va nécessiter que vous preniez un traitement sur plusieurs années, voire toute votre vie. Il est évident que vous êtes forcément tenté un jour ou l'autre de l'arrêter, votre traitement, tout simplement pour vérifier, hein, pour vérifier que le médecin, finalement, a peut-être tort, etc. Donc ça, c'est humain, hein, c'est humain, mais pour autant, il y a quand même un risque, hein, et c'est justement grâce à l'aide des médecins qui vous suivent, des infirmiers aussi, mais également des associations comme Argos, que confronté à d'autres personnes, vous arriverez petit à petit à intégrer le fait que le fait d'avoir un traitement pris régulièrement peut beaucoup vous aider. Ça n'évite pas tout, hein, ce n'est pas 100% de consolidation, hein, mais quand même, hein, ça évite la grande majorité des rechutes. Hein. Alors après, il y a les événements de vie, hein, comme disait aussi M. Lavignotte, hein, qui font que vous pouvez être moins bien à un moment de votre vie et quand même avoir une petite rechute. Hein. Mais jamais aussi gravement quand vous avez un traitement, quand vous n'en avez pas. Hein. Donc voilà, si je peux répondre à votre question.
Voilà, pour aller au bout... dans ce que vous dites, effectivement, les bénéfices sont effectivement importants, mais
les effets secondaires, vous
voilà.
Avez,
est-ce
voilà,
qu'il y a, hein, des effets secondaires?
Je n'ai pas répondu à cette question-là. Ouais. Alors, les effets, alors comme tout médicament, hein, je dirais que le médicament qui n'a aucun effet secondaire, ça n'existe pas, puisque même les placebos sont des médicaments qui en réalité ne sont pas des médicaments, hein, c'est-à-dire c'est des ersatz de médicaments qui sont utilisés dans un certain nombre d'études comparatives. Hein. Même ces médicaments-là ont à peu près 30% d'effets secondaires, alors qu'en réalité, ce ne sont en général que de l'eau et du sucre. Hein. Bon. Donc, pour vous dire quand même que le problème de l'effet secondaire, c'est très compliqué. Il y a bien sûr des effets secondaires que normalement le médecin doit vous expliquer, hein, qui peuvent être gênants. Ça peut être des tremblements, ça peut être des prises de poids, ça peut être éventuellement des troubles de concentration. Bon, il y en a. Hein. Mais après, c'est la question du bénéfice-risque à prendre un traitement avec les effets secondaires, qui en général sont quand même beaucoup moins importants que les effets recherchés, et le fait de ne pas prendre de traitement avec le risque de rechuter et de mettre de plus en plus longtemps à ensuite vous rétablir normalement. Donc ça c'est très compliqué. On peut pas, on mentirait en vous disant qu'il n'y a pas d'effets secondaires. Après, c'est au cas par cas. Hein. Tout est à discuter avec votre médecin. Il y a suffisamment de médicaments différents pour qu'on puisse en trouver un qui vous corresponde le plus. Hein. Parfois, il en faut deux. Hein. Il y a quand même facilement 40% des patients bipolaires qui ont deux régulateurs d'humeur. Ça ne veut pas dire qu'ils sont très, très, très malades. Ça veut dire qu'un seul médicament n'est pas suffisant parce qu'il n'agit pas sur tout. Hein. Donc ça, c'est vraiment au cas par cas. Mais oui, il y a des effets secondaires, hein, qu'on ne peut pas dénier, mais qui peuvent être en général assez supportables, à condition, bien sûr, que vous en parliez au médecin et qu'on essaye de les limiter au maximum. Hein. Voilà.
Je voulais en poser une de plus.
Encore une.
Enfin, ouais, je suis un peu curieux. À partir du moment où il y a un diagnostic de bipolarité et une prise en charge et une mise sous médicament éventuellement, voilà, est-ce qu'il y a une durée une durée lambda qui correspond à peu près au rétablissement, enfin en tout cas un retour à une vie normale. Combien de temps ça prend?
Voilà. Alors, déjà, il faut savoir que les traitements, alors ça dépend d'où vous partez. Si par exemple vous êtes en état maniaque, hein, comme en état mixte, comme le jeune homme à la fin du dernier film, hein, il est évident qu'il va y avoir d'abord une phase d'hospitalisation, hein, qui souvent se compte en plusieurs semaines. Hein, il n'est pas rare qu'on puisse vous garder par exemple 2 mois à l'hôpital. Hein. Alors après vous sortez, hein, donc vous avez la phase de rétablissement, la phase de convalescence. Et pour vraiment que vous arriviez à vous rétablir, hein, quand vous êtes dans un état mixte, par exemple, il faut bien compter plusieurs mois. Hein, bon, de même, si vous êtes, par exemple, dépressif, vous pensiez être dépressif et que le médecin va vous expliquer que finalement, vous avez un trouble bipolaire. Alors, il y a des questionnaires qu'on peut vous faire passer. Le questionnaire de Angst, par exemple, hein, qui est un auto-questionnaire, hein, qui avec un certain nombre de questions pour différencier une dépression on va dire classique, d'une dépression d'une personne qui est bipolaire. Donc ça, les infirmiers sont formés pour passer ces tests-là. On vous initie un traitement. Le traitement, il agit très, très, très lentement. Hein. Ce n'est pas des drogues puissantes, hein, qu'on vous donne. Hein. C'est pas, on ne va pas métamorphoser votre cerveau en un jour ou deux. Il faut souvent compter quand même, pour avoir tous les effets, il faut compter souvent au moins 2-3 mois. Hein. C'est tout à fait différent d'un traitement antidépresseur qui peut agir en 8-15 jours. C'est tout à fait différent d'un anxiolytique, hein, comme l'exomil ou autre qu'on vous donne quand vous avez des angoisses, ça agit tout de suite. Le traitement régulateur d'humeur agit lentement. C'est pour ça qu'il faut souvent vous garder au début l'antidépresseur que vous aviez peut-être, hein, ou vous garder un médicament pour l'angoisse. Donc ça, après, au fur et à mesure, hein, le médecin, ce qu'il désire, c'est que vous ayez le moins de médicaments possible pour être bien. Mais ça prend souvent plusieurs mois. Ça prend plusieurs mois. Hein. Et ça, il faut bien l'expliquer. Si on ne vous l'explique pas, vous n'allez pas comprendre. Hein. C'est-à-dire, ça fait un mois et demi que je prends votre médicament, ça ne me sert absolument à rien. Voilà, bon, c'est peut-être tout à fait vrai. Hein, donc. Madame.
Un bipolaire phobique qui ne supporte pas bien les antidépresseurs parce que ça le fait tout de suite monter en manie. Peut-on espérer le guérir et guérir cette phobie?
Alors là, vous introduisez une autre notion. Alors, une personne bipolaire pour qui les antidépresseurs donnent en effet des réactions hautes, hein, il est évident qu'il faudrait éviter de lui mettre des antidépresseurs, hein, puisque l'antidépresseur provoque à ce moment-là des états maniaques artificiels, on va dire, hein, une irritabilité, une excitation, etc. Et au bout d'un moment, il est vrai que les régulateurs d'humeur ne sont pas suffisamment puissants et peuvent ne plus marcher du tout. Hein. C'est pour ça qu'on évite de donner pendant des très très longtemps des traitements antidépresseurs à des personnes qui sont bipolaires, hein, ou alors des toutes petites doses et certains médicaments. Par contre, la personne qui fait de la phobie, c'est par exemple la phobie sociale, des gens qui ne peuvent pas sortir ou qui ont la phobie des grands espaces, la phobie de la voiture, la phobie de l'ascenseur, la phobie d'être dans des foules, ou etc. Souvent, un des traitements qu'on donne, c'est de la famille des antidépresseurs. Hein. Donc, c'est vrai que ce cas que vous décrivez est un cas assez délicat. Hein. Peut-être qu'il faudrait des thérapies comportementales et cognitives. Bon, pour traiter la phobie, il faudrait peut-être utiliser autre chose que des médicaments. Voilà, mais c'est un cas difficile.
Merci, docteur.
Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres remarques, mademoiselle ?
Vous avez dit tout à l'heure qu'un comité d'éthique avait été créé à l'hôpital. J'aurais voulu savoir ce qui s'y passait et qui le compose.
Alors, le comité d'éthique est une instance qui est donc obligatoire dans les hôpitaux. Hein. Il y en a dans tous les hôpitaux, pratiquement. Au CHU, il y en a un qui est très, très gros. Hein. C'est à l'hôpital psychiatrique aussi. Donc, c'est une instance qui est composée de personnes volontaires. Hein. Donc, il y a des médecins, il y a des cadres infirmiers, il y a des membres de la direction. Il y a également des personnes extérieures, hein, des personnes dites... qui ont été choisis pour leur capacité. Donc nous avons, je crois, si je ne m'abuse, un professeur de philosophie et puis un professeur de droit aussi, hein, qui sont présents dans ce comité d'éthique. Et donc les questions qui sont traitées sont soit... il y a également, bien sûr, un membre des usagers, hein, j'étais en train d'oublier, hein, il y a également un représentant des usagers, hein, qui est important. Et donc les questions qui s'y sont traitées sont des questions qui sont posées soit par des patients, soit par des soignants, soit par des usagers. Hein. On a traité récemment la place des familles, hein, au sein des soins. Hein. Voilà, c'était une question qui était posée, par exemple. Hein. Et on avait également traité un cas sur le droit des patients, je crois, à la sexualité à l'hôpital ou quelque chose comme ça. Voilà. Donc c'est des sujets, si vous voulez... importants, hein, qui sont traités par des personnes qui n'ont pas la prétention de tout connaître. Hein, mais enfin, du moins, on peut y déposer des questions. Quand il y a des recherches, il y a des internes qui ont dû faire des recherches pour leur thèse, bon, on en a parlé au comité d'éthique pour voir si ça respectait bien le droit des patients, etc. Voilà, à peu près comment ça fonctionne. Mais c'est assez jeune, hein, ça a une année à peu près, le comité d'éthique à l'hôpital psychiatrique. Hein. Celui du CHU est bien plus ancien. Jacques, une remarque, une question. Le micro.
Je peux dire...
Ah, une autre question, peut-être, oui, mademoiselle.
C'était, est-ce qu'il s'agissait en fait de décisions que vous deviez appliquer ? Vous prenez des décisions et on les applique, ou est-ce que...
Alors,
c'est juste...
Il y a ensuite, si vous voulez, ce sont des recommandations, hein, qui sont ensuite présentées à la commission médicale d'établissement et qui sont... c'est pas un comité... qui est exécutif, hein. C'est un comité consultatif, hein, et ensuite on donne des recommandations qui, on l'espère, vont être suivies, hein, mais c'est pas quelque chose d'exécutif. Hein, voilà.
Juste une petite question, une petite indication technique. Il est 22h15, donc on va commencer peut-être. Pas d'autres questions. Je vais moi-même en poser une. Oui, je vais en poser une tout à l'heure qui peut être. Ah ben. Je ne la poserai pas si...
J'ai écouté avec attention votre exposé. En tant que parent d'une enfant bipolaire, boulimique, anorexique, quelle est la place, le rôle, je ne sais pas si on peut dire ça, mais des parents auprès de notre enfant?
Alors ça, c'est... Là, vous êtes dans une question tout à fait importante, puisque là, votre enfant est donc, souffre d'un trouble bipolaire qui a été diagnostiqué, apparemment. Elle a donc ce qu'on appelle des comorbidités, puisqu'elle a également un trouble du comportement alimentaire de type boulimique, anorexique. Alors, est-ce que l'un a précédé l'autre? Je ne sais pas exactement, ou si tout est apparu en même temps, peut-être aussi, hein, voilà. Donc, bon, en tant que parent, votre place, ça sera toujours d'être parent. Hein, donc... d'être... Mais par contre, Je ne sais, ça dépend un petit peu quelle relation vous avez finalement avec votre fille. Hein.
Notre fille a 39 ans. Hein.
D'accord.
C'est différent encore. D'accord. Hein. C'est encore un autre problème.
Oui.
Bien sûr, on reste parents, mais quelle doit être la proximité?
Voilà.
Personne n'est capable aujourd'hui de dire l'ensemble des psys. Notre fille a fait 3 séjours à Shango, à Èvre, à côté de Surindre, là-bas. Certes, il y a du personnel très compétent et j'en doute pas, mais personne ne peut répondre à cette question où on se positionne. Trop près, non. Trop loin, non. Entouré, non plus. Très difficile. Moi, je ne sais pas.
Alors, c'est vrai qu'à partir du moment où votre fille est adulte, hein, donc bien évidemment, ayant ces troubles, bon, vous êtes assez inquiet pour elle, bon, d'autant si elle a été plusieurs fois hospitalisée. Bon, je pense qu'elle doit avoir un suivi également. Hein, voilà. Hein, bon, alors après, c'est le problème de jusqu'où peut-on aller pour surveiller, entre guillemets, ou encadrer finalement une personne qui est malade dans sa famille, hein, ne pas être trop intrusif, hein, ne pas l'empêcher quand même de vivre, d'être autonome, en même temps être suffisamment attentionné. Donc après, c'est des espèces de règles, hein, qu'il faut essayer de poser. Mais je serais incapable de répondre exactement à votre question. Hein, mais peut-être qu'il y aura une réponse plus de la part d'autres patients ou d'autres parents, mais peut-être rencontrer des parents un peu comme vous éventuellement. Mais je ne peux pas vraiment vous répondre précisément, malheureusement, à votre question. Hein.
En tant que membre de l'association Argos, association de patients et de proches, on n'a pas la réponse. La réponse, elle est propre à chaque binôme ou à chaque trinôme. La bonne distance, il n'y a pas de règle qui va aller à tout le monde. Il faut la trouver vous-même avec votre fille, peut-être avec nous dans l'association, pour échanger avec d'autres proches et d'autres patients. Mais en tout cas, vous n'aurez pas la réponse ce soir, j'en ai peur. Une dernière, parce qu'on va... Il doit être 22h20, on va conclure à 22h... Oui, la pendule... On a le temps, si on suit à la pendule, on a le temps. Oui. On va conclure dans un peu moins de 10 minutes. Voilà, donc une avant-dernière question. J'en aurai une et on conclura.
On a vu que c'était une maladie longue. Donc, ma question, c'est le retour à l'emploi, le retour à la vie active. Est-ce qu'on a une proportion de gens qui peuvent retrouver un emploi? Est-ce qu'il faut des employeurs compréhensifs? Voilà.
Alors là, c'est une question très importante. Et ce qui fait d'ailleurs que l'association Argos a rajouté dans le programme tout un versant professionnel. Alors, il y a vraiment... beaucoup de cas de figure différents. Alors, bien évidemment, le trouble, bon, c'est un trouble au long cours, ça vous l'avez compris. Et donc, ça implique parfois une instabilité. C'est des gens qui parfois ont beaucoup changé de travail, ont beaucoup changé d'emploi, sont partis un peu sur des coups de tête. Voilà. Alors, il y a des employeurs compréhensifs, c'est vrai. Hein, il y a cette maladie, ce trouble peut également être donné lieu à une reconnaissance par la MDPH, hein, en tant que travailleur handicapé, hein, quand vraiment d'un certain degré. Hein, un employeur compréhensif, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, bien évidemment, il y a certains emplois qui sont pas extraordinairement favorable, hein, quand vous avez des horaires variables en permanence, quand vous avez des emplois où vous devez vous coucher extrêmement tard alors qu'on sait qu'il faut avoir un sommeil assez régulier. Alors, moi, je dirais que la personne a un trouble, elle ne veut pas forcément en parler à son travail ni à ses collègues, ça peut se comprendre, c'est quelque chose de personnel, mais par la force des choses, au cours de la maladie, elle aura parfois des absences, elle aura des arrêts de travail, etc., parfois des hospitalisations. Et on sait bien que dans certains milieux, c'est assez redoutable, hein, et très vite, bon, ça va se répandre, qu'elle est malade, elle est folle, elle est machin. Enfin bon. Donc, il est vrai que le médecin du travail peut avoir un rôle important aussi. Hein. Et il y a le maintien au travail, alors, la proportion. Il y a quand même, moi je constate à peu près au moins 60% des gens qui travaillent encore. Hein. 40% qui travaillent de manière adaptée, hein, c'est-à-dire à qui on a dû faire des adaptations de poste, voire parfois également des, à travers la reconnaissance, travailleurs handicapés, des postes un petit peu protégés. Alors après, on a tous ces gens qui sont, on va dire, en travailleurs indépendants, qui, bon, alors ça c'est encore autre chose. Hein, pour le redire, hein, tout à l'heure il y avait la photo de cette actrice, hein, mais bon. Je crois que dans ma dernière diapo, j'avais dû mettre encore d'autres photos. Il y a quand même une proportion importante de personnes qui sont dans la création, dans la créativité. Hein. Il y a des artistes, il y a des écrivains. Voilà, vous avez Hemingway, là, hein, entre autres. Benoît Poulvorde, qui lui-même a admis qu'il était bipolaire. Hein. Il en a parlé très ouvertement également. Bon, alors c'est vrai que il peut y avoir dans certains métiers, dans le métier de l'art, les métiers un petit peu de la communication, les métiers, il y a des gens qui vont avoir des artistes. Hein, on aurait pu mettre aussi Van Gogh, etc. Il va y avoir des personnes qui vont se développer beaucoup, mais qui peuvent après s'arrêter brutalement. Donc voilà, il y a quand même un certain nombre de personnes. De génie aussi, il faut le dire. Alors, c'est pas toujours positif dans le sens que parfois leur destinée a été un peu tragique. Mais pour autant, dans le monde du travail, on va dire ordinaire, hein, c'est pas toujours facile. Hein, c'est pas toujours facile. On voit des métiers où il y a plus de tolérance, hein, parfois les administrations, parfois. Bon, mais c'est vrai que ça reste quand même. Ça peut être handicapant dans le cadre du travail, ça c'est sûr. Hein. Parfois, par des gens qui démissionnent sur un coup de tête, vous voyez, des choses comme ça. Donc, bon, nous, des fois, on essaye de récupérer un certain nombre de choses. Hein. On a quand même des employeurs avec qui on peut. Mais à ce moment-là, il faut parler, il faut dire. Hein, voilà. Et puis après, il y a des gens pour qui il faut réorienter sur un autre métier, parce que, apparemment, ça ne convient pas du tout. Quoi. Donc, ce qui n'est pas facile à un certain âge, hein, des fois. Mais...
Bonsoir. Tout à l'heure, dans les traitements, vous avez parlé de la stimulation du cerveau. Et donc, j'avais une question.
Oui, allez-y.
Savoir, un adulte de 38 ans, pour qui aucun traitement n'a pu stabiliser son trouble bipolaire, est-ce qu'éventuellement, il y aurait un espoir avec ces nouvelles techniques de stimulation du cerveau? Et j'avais une autre question sur, éventuellement, j'ai entendu parler des centres experts, troubles bipolaires. Est-ce qu'également une orientation vers ces centres experts pourrait aider cette personne? Voilà.
Alors, donc, la résonance magnétique transcrânienne, hein, pour l'instant, n'a pas encore l'habilitation, hein, comme régulateur d'humeur, hein, puisque c'est surtout dans les états dépressifs sévères qu'on utilise ou dans les TOC. Mais pour l'instant, il y a des recherches, si vous voulez, qui sont en cours. Hein. Les recherches, c'est quoi? C'est les centres prennent des patients et font des essais sur eux, hein, avec leur accord, bien sûr. Hein. Pour l'instant, on n'a pas assez de recul, mais je pense que dans les années à venir, on pourra peut-être associer ça à un traitement, en association, hein, peut-être pas en remplacement complet. Quant aux centres experts pour les troubles bipolaires, il en existe certains, en particulier sur... moi, je connais celui de l'hôpital Sainte-Anne à Paris. Hein. Il y en a certainement d'autres. Je crois qu'il doit y en avoir un à Bordeaux aussi, il me semble.
Oui, il y en a un à Bordeaux.
Hein,
oui.
Voilà, hein, donc ça, c'est voilà, hein, dans le service de Madame Verdoux. Hein. Il y en a peut-être d'autres en France. À Poitiers, on n'en a pas. Hein. On est un certain nombre de psychiatres à être un petit peu plus spécialisés dans ce domaine-là. Mais il n'y a pas vraiment de centre expert, hein, au sens qu'on n'a pas les moyens encore de le développer. Mais en tout cas, bon, sur Paris, sur Bordeaux, ça, c'est... Moi, j'ai des patients qui parfois ont été, hein, donc, ont été faire une consultation là-bas. Ça les a aidés. Hein, ça les a aidés à parfois à prendre un peu de recul, à avoir un autre avis, un petit peu plus spécialisé. Hein, mais voilà, donc ça, c'est...
Donc vous, si vous suiviez un malade qu'on n'a pas pu stabiliser depuis 20 ans, est-ce que vous accepteriez de le mener vers un centre expert?
Ben oui, ça c'est quelque chose qui me paraît tout à fait. De toute façon, le droit du patient, c'est d'aller consulter le médecin qu'il a envie de consulter pour un avis. Alors, ça existe dans d'autres domaines.
Mais c'est son droit, sauf qu'il ne peut pas y avoir...
C'est peut-être pas forcément facile à faire, mais bon, on peut avoir un rendez-vous. Alors, il faut attendre, hein, bien sûr, mais les centres experts, il n'y en a pas assez. Hein. On aimerait en avoir un peu plus. Hein, mais,
Il faut qu'il soit...
Il faut qu'il soit orienté par quelqu'un. Oui, c'est
et qu'il y ait une lettre, en fait.
Oui, oui, ça peut se faire, ça, oui.
Bon.
Oui, ben je crois qu'on va conclure. Il doit être 26 et demi. On est dans notre partenaire. Alors, on va remercier, je conclurai, mais on va remercier Madame Lévy-Chavagna et Monsieur Rollin. Merci beaucoup. Merci beaucoup de cet exposé très clair et précis et qui a dû apprendre des choses à pas mal de personnes. Et pour nous, même si c'est la 7e année que nous le faisons, on apprend chaque fois. On va remercier aussi l'Espace Médias France avec qui nous avons ce partenariat depuis donc 7 ans et Madame Guiton qui est là ce soir et qui est la responsable de la partie santé et toutes ces choses-là. Demain soir à 18h30, nous avons un groupe de parole à l'endroit que vous avez vu là. Quelques personnes de l'asso sont dans la salle. Si vous vous êtes intéressé par le programme et les dates, les coordonnées de l'association, voilà, vous pourrez venir prendre des dépliants. Merci beaucoup. J'espère que ça vous a intéressé. Et nous, en tout cas, ça nous a appris beaucoup de choses. Encore merci, bonsoir.
Merci à vous tous d'être venus. Hein,
et il est 22h, on laisse les techniciens partir chez eux, Madame Guiton partir chez elle, les dames. Merci beaucoup. On peut continuer, dehors il ne fait pas froid. Oui, oui.